Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le 8 mai, nous recevons Pierre-Antoine Plaquevent et nous allons parler de Carl Schmitt. Pierre-Antoine Plaquevent, bonjour.
Bonjour.
Nos auditeurs, nos internautes vous connaissent bien puisque nous avons déjà à notre actif plusieurs vidéos, dont sur Georges Soros, puisque vous êtes l'auteur d'un livre sur Georges Soros et la société ouverte. Vous êtes même d'ailleurs le seul auteur sur la question. Et nous avions également traité du thème des Gilets jaunes. Nous avions participé ensemble aux Gilets jaunes. Oui. Et nous avions également fait une vidéo sur le fascisme, sur l'origine du fascisme.
Les origines intellectuelles. Voilà.
Et finalement, c'est un bon moyen de rebondir sur le thème d'aujourd'hui. En fait, nos spectateurs doivent savoir que cette vidéo était planifiée il y a à peu près un an et demi. On devait se rencontrer à Paris pour filmer ça en 2020, mais le Covid a eu raison de Carl Schmitt. Et heureusement, en tant que heureux époux de femme russe, vous avez pu nous rejoindre. En Russie, et ça nous permet aujourd'hui de tourner cette vidéo et de parler un peu de Carl Schmitt, parce que Carl Schmitt est de plus en plus d'actualité, et notamment puisqu'il est, on en parlera tout à l'heure, cité, étudié abondamment en Chine notamment. Mais avant d'arriver justement sur le Carl Schmitt d'aujourd'hui, tel qu'il est vu aujourd'hui, le Carl Schmitt actuel, je voudrais qu'on revienne sur l'histoire en fait de cette personne et en fait des différents Carl Schmitt, puisqu'il y a eu différents Carl Schmitt dans l'histoire. Ce que tout le monde sait plus ou moins, c'est que Carl Schmitt, c'est la désignation de l'ennemi. C'est souvent d'ailleurs comme ça ceux qui ne l'ont pas lu, des choses qu'ils savent de Carl Schmitt. Personnellement, c'est un Allemand. Qui est un Rhénan, je crois, catholique, et avant tout, c'est un juriste. Et d'ailleurs, il a une formation de juriste dans une famille qui est pourtant très catholique, et son père voulait d'ailleurs qu'il fût prêtre. Et il a choisi la carrière de juriste. Et à partir de là, ce qu'on sait également de lui, c'est qu'il a à un moment adhéré au Parti National Socialiste, mais qu'il n'est pas resté très longtemps, puisque je crois qu'il a quitté en 1935 ou 1936. Alors, quel a été son apport? Est-ce que le premier Carl Schmitt, c'est celui qui collabore avec le NSDAP?
Alors, ce qui est intéressant, moi, ce qui m'a intéressé, vu mon domaine d'étude, c'est en fait, pour moi, un des premiers auteurs qui a vraiment identifié certaines tendances de ce qu'on appelle maintenant la gouvernance mondiale, en fait. À l'époque de la SDN et notamment des sanctions contre l'Allemagne, il a vraiment identifié des choses qui sont devenues ensuite récurrentes dans la méthodologie mondialiste, on pourrait dire. Alors effectivement, il y a plusieurs Carl Schmitt. Bon, c'est une œuvre quand même tellement vaste et dense que, enfin, on pourrait passer, je pense, une vie à l'étudier pleinement. Et il y a beaucoup d'universitaires qui s'y consacrent. Et en fait, quand on regarde un peu plus attentivement, on voit que, oui, alors il y a la période où il a adhéré au national-socialisme, mais en fait, dans une forme de continuité, c'est-à-dire il a été, avant d'avoir une place d'influence au sein du national-socialisme, il a essayé d'exercer son influence dans la République de Weimar et auprès des différents gouvernements de l'époque. Et la première période, on pourrait dire qu'il est plutôt un libéral conservateur, qui est libéral économiquement, j'entends, qui est anti-libéral politiquement, qui est pour un État fort, mais une économie de marché libre.
Le moins possible d'État dans l'activité économique.
C'est ça. Et en fait, ça, c'est la période, on pourrait dire la première période. Et puis, il va essayer de réarmer au niveau des notions juridiques la République de Weimar face à la montée et du communisme et du nazisme, en fait. Dans le même temps, il étudie ce qu'il appelle la montée de l'État total, avec justement l'avènement du fascisme en Italie. En fait, c'est une pensée beaucoup plus complexe qu'on ne le croit, et c'est quelqu'un qui n'est justement, comme ce n'est pas quelqu'un qui est manichéen, à notre époque, qui est une époque manichéenne en termes d'idées politiques, on a tendance effectivement à le mettre dans une case et à l'y laisser. Moi, je considère au contraire, de ce que j'ai étudié, enfin vu chez lui, que au contraire, son engagement dans le national-socialisme était plutôt un moyen d'essayer de l'infléchir dans le sens de ses positions qui étaient plus statoréaliste et en fait assez conservatrice. Et c'est pour ça qu'il s'est fait aussi attaquer à l'époque par c'est la revue de la SS, hein, Das Schwarze Korps, qu'il a attaqué sur son présumé faux antisémitisme. C'était la revue de la SS lui reprochait d'avoir à des moments aider des étudiants juifs ou être finalement dans un antisémitisme. En fait, ce qu'il lui reprochait réellement, c'est d'être, on pourrait dire, un peu judéo-critique dans le sens classique conservateur ou catholique, mais ne pas être un antisémite racial comme l'étaient les gens de la SS.
Mais c'est-à-dire que la SS l'a attaqué uniquement sur son antisémitisme, il n'y a pas eu d'attaque sur les concepts, sur son libéralisme économique, par exemple
À ce moment-là, il parlait beaucoup moins du libéralisme économique. En fait, on dirait qu'il s'est un petit peu résolu avec l'arrivée du national-socialisme, au fait que bon, maintenant l'État total était une tendance de la modernité.
Que l'économie serait dirigée.
Que l'économie serait de plus en plus dirigée, qu'il faut essayer de freiner cette tendance, mais finalement, bon, si on ne peut rien faire. Et puis, c'est toujours facile, rétrospectivement, de juger des engagements dans une époque où tout va quand même très très vite, puisque en 1933, de 1933 à 36, quand il quitte le parti, même s'il reste influent en termes de juriste, ça va très vite, quoi. Enfin, les mêmes qui aujourd'hui critiquent Carl Schmitt, est-ce qu'ils sont aussi critiques avec ce qui se passe actuellement? Est-ce qu'ils sont vent debout contre la dictature sanitaire et autres? Je suis pas sûr. Et finalement, un pays, et c'est ce que, en fait, Schmitt était on pourrait dire obsédé par une chose, c'était la perte de souveraineté et d'État de l'Allemagne. Et en fait, il a développé des concepts qui finalement sont universels, mais parce que justement, il développe la notion de politique dans ce qu'elle a de particulier, en fait. Et ce qui est intéressant par rapport à la gouvernance globale, c'est qu'il dit il a vraiment identifié cette tendance de vouloir créer un ordre universel unique. Face à donc ce qu'il définit dans la notion de politique, c'est que le politique est par essence pluriversel. Et donc c'est un ordre de différentes formes politiques qui s'affrontent entre elles, qui jouent entre elles. Et qui voilà. Et c'est ça qui est intéressant à réétudier à notre époque. Alors là aussi, il y a plusieurs Carl Schmitt. Le Carl Schmitt qui est en fait l'époque où il rédige la notion de politique. En allemand, ce serait plutôt le concept de politique, où il va chercher à identifier ce qui est la spécificité du politique au-delà de la forme de l'État, en fait. C'est-à-dire, à l'époque, beaucoup de géopoliticiens ou de juristes allemands sont vraiment sur cette idée de quelle est la nature de l'État, comme le Suédois Gjelen qui avait écrit le livre « L'État comme forme de vie », ou voilà, tous ces gens de cette école ratzélienne, si on veut. Eh bien, Carl Schmitt, lui, va dire la forme de l'État, qu'il se soit finalement un organisme ou un mécanisme, de sa manière, compte moins que de comprendre ce qu'est le politique. Et en fait, finalement, on peut dire qu'il est assez... ça fait penser un peu à Aristote, c'est-à-dire l'essence de l'homme, c'est d'être politique. Donc c'est pour ça qu'il a rejoint après des concepts religieux, des concepts théopolitiques, comme il disait lui, c'est-à-dire qu'est-ce que l'homme, en fait, à l'état de nature. Voilà. Est-ce que c'est l'école rousseauiste où l'homme est un bon sauvage, ou bien est-ce que c'est Hobbes et l'homme est un loup pour l'homme?
C'est aussi un disciple de Bodin, en quelque sorte.
Voilà, c'est un disciple de Bodin. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un disciple de Bodin, mais aussi de Machiavel, de Hobbes, et donc de pensées qui sont un peu les penseurs classiques qui vont être à la jonction entre la sortie du christianisme politique, finalement, et des Lumières, en fait. Et lui va réutiliser cette pensée-là en disant « Non, c'est intéressant pour nous, même conservateurs chrétiens, d'utiliser Machiavel ou d'utiliser Hobbes. » Pour lui, Hobbes était même un penseur chrétien, en fait. Parce qu'il dit finalement, Hobbes a pris acte du fait qu'il y avait une rupture, une stasis dans la cité dans laquelle il vivait, et il essaye finalement, avec le politique, d'essayer de transcender cette rupture.
De mettre fin à la guerre,
en fait. Voilà, de mettre fin à la guerre de tous contre tous. En fait, le danger de la guerre civile, qui est de faire revenir l'homme à l'état de nature, c'est-à-dire à l'état où, en fait, le politique est mal organisé, et où il n'est pas organisé sous forme étatique, et où donc on risque la guerre civile.
Il y a une critique également chez Schmitt de, en quelque sorte, des corps intermédiaires. Ce qu'il veut, c'est en fait un peuple et son chef.
Oui, alors il y a Bouskous. Oui, d'ailleurs, surtout dans la période de Weimar, où plus les nationaux-socialistes montent, plus il va essayer en fait d'avoir cette vision d'une république vraiment unie avec une république présidentielle forte, avec un chef d'État fort. Et en fait, cela rappelle la constitution de la Ve République, dont les auteurs étaient clairement inspirés par Schmitt, en fait. Hein.
Schmitt quitte le NSDAP en 36, hein, je crois.
Oui, c'est ça. 36. Alors après, oui.
Et donc, quel est le Karl Schmitt suivant? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait?
Alors, comme il est mis en difficulté interne, finalement, avec l'orthodoxie nazie, il va continuer à essayer d'exercer une influence, mais il va s'intéresser plus aux questions de relations internationales ou même de géopolitique, mais toujours abordé sous l'angle juridique, puisque c'est sa discipline dans lequel il est vraiment quelqu'un qui, à chaque étape de la vie allemande, même juste après-guerre, a eu une influence notable. Donc c'est pas, on le réduit à cette période-là, mais en fait. Et donc ce qui est intéressant, c'est que finalement, en fait, avec du national-socialisme, il va un peu là aussi dire bon, ben on assiste maintenant. En fait, la forme de l'État, le politique ne peut plus être contenu seulement dans la forme étatique. Maintenant, on arrive à une ère où finalement on aura ce qu'il appelle des grands espaces qui vont être gérés par une puissance dominante. Donc ça rejoint un peu la cartographie géopolitique de Haushofer ou de gens comme ça. Mmh. Et c'est assez réaliste dans le cadre de l'époque, notamment avec le pacte germano-soviétique.
Il adhère à la notion d'espace vital.
Alors pas forcément à la notion d'espace vital, mais à la notion plutôt d'un grand espace qui serait inviolable par les puissances extérieures, en fait. D'accord. Et donc, il y aurait différentes zones d'influence. Il reprend la doctrine Monroe américaine. Il dit, voilà, finalement, les Américains, eux, sont un grand espace et une puissance continentale qui ne veut pas se montrer telle qu'elle. Mais en fait, les Américains ont leur État continent et puis leur zone d'influence qui est l'Amérique du Sud aussi. Et toute puissance étrangère qui va rentrer dans cette zone d'influence en est immédiatement chassée. Il dit, les Soviétiques commencent à avoir la même chose. Nous, Européens, nous devons faire la même chose. Les Japonais, la même chose. Puisqu'à l'époque, ce n'était pas la Chine, mais le Japon, la puissance asiatique dominante. Et là, on aurait en fait, ce qu'il appelle un ordre du monde, un nomos de la Terre, qui pourrait être pacifié. Parce qu'en fait, il est assez... il est hanté par une chose, c'est finalement l'anarchie dans l'ordre international qui commence à s'installer entre la fin de l'ère des États issus du traité de Westphalie et finalement la montée justement de la gouvernance globale qu'à l'époque on appelle le cosmopolitisme.
C'est un peu un retour au traité de Vienne en fait, c'est-à-dire que les grandes puissances se mettent d'accord pour empêcher les petites de semer l'anarchie.
Oui, c'est ça, ou en tout cas les tendances, mais là pas que les petites, mais vraiment la tendance, en fait, et c'est pour ça que c'est un penseur qui est vraiment actuel, il a vraiment identifié l'identité de vision du monde entre l'internationalisme marxiste et le communisme et le cosmopolitisme de la société des nations, en fait. Mmh. À la différence qu'il accorde aux marxistes, c'est pour ça qu'il est beaucoup lu à gauche, l'idée que les marxistes ont au moins en tête qu'il y a un ennemi. Voilà, c'est un ennemi de classe, ce qui est dangereux parce que ça amène la division dans toutes les sociétés, mais il y a quand même la vision ami-ennemi, chose que les purs libéraux cosmopolites se refusent. Et alors, il y a une notion qui est franchement très intéressante et fondamentale, c'est l'idée du moment que l'on refuse qu'il puisse y avoir un ennemi, on est dans la diabolisation de l'ennemi, et ce qu'il identifie très tôt, dès les années 20, c'est l'idée qu'on revient à la notion de guerre juste, qui était chez Saint-Augustin, guerre juste qui n'est plus sur des concepts religieux, mais sur des concepts moraux. Et en fait, on sort de la raison, paradoxalement, des gens qui sont bercés des idéaux des Lumières sont en train de sortir de la rationalité pour rentrer dans une nouvelle forme de religion.
D'ailleurs, la conception mondialiste, si on prend Emmanuel Kant, par exemple, vers la paix perpétuelle,
voilà.
C'est une idée donc issue des Lumières,
oui.
Qui est totalement
Oui, sauf que même Kant n'imaginait pas un gouvernement mondial unifié. Il imaginait une sorte un peu de parlement, un peu de négociation, qui serait peut-être plus proche, une forme d'ONU.
C'est une utopie.
C'est une utopie, voilà. Ouais. Mais sauf que Il restait un peu l'arrière-fond chrétien encore chez Kant. Maintenant, bon, après, on est complètement sorti de cette chose-là. Et donc le Carl Schmitt...
Pardon, je pense que c'est important. Donc, c'est-à-dire que Carl Schmitt, finalement, est dans la rationalité.
Oui, et dans l'analyse politique.
Alors que ce qu'on appelle aujourd'hui les globalistes, voilà, sont dans une vision idéologique et irrationnelle.
Et idéaliste, donc, tout est dans la généalogie des termes, puisque utopique, hors du lieu, en fait. Mm-hmm. Alors que... Et on peut vraiment... Ça rejoint aussi... C'est intéressant, par exemple, sur le terme géopolitique, c'est en fait, je crois, un des premiers qu'il a employé, c'est Leibniz. Leibniz employait, je crois que dans un de ses traités, il employait d'abord le terme cosmopolitique. Et puis on voit qu'il raye ce terme et il dit non, géopolitique. Voilà. Et en fait, maintenant, on a finalement les deux tendances. Il y a, soit on pense que le monde doit être unifié et on va vers la cosmopolitique, soit on admet la géopolitique et puis l'affrontement inhérent à la condition humaine, mais qu'il faut organiser. Voilà.
Donc son modèle final, c'est de grands ensembles contrôlés par, une grande puissance et qui vivent, qui s'équilibrent entre eux.
Et le bon exemple, c'était à l'époque le pacte germano-soviétique, en fait, hein, où finalement il y avait deux grands espaces. Ouais. Bon, alors c'est sûr que pour nous Français, on était déjà un peu pris. C'est l'Allemagne, la puissance dominante dans l'espace européen qu'ils imaginaient. Et il parlait, lui aussi, comme Haushofer, d'Eurafrique. Donc ce sont des espaces qui vont vers le sud aussi, c'est-à-dire qui englobent tout le monde. Les États-Unis ont l'Amérique latine, les Européens auraient eu l'Afrique, les Russes soviétiques auraient eu jusqu'à l'océan Pacifique, et puis ensuite la zone de prospérité asiatique dominée par le Japon. C'était une manière de dire, bon, maintenant les États entre eux ne suffisent plus, et ils vont être, soit les États vont être absorbés par cette forme de proto-gouvernance mondiale, soit il y aura une anarchie, et soit là on peut arriver à équilibrer quelque chose. Mais évidemment, c'est une vision assez théorique. Et puis, donc ça nous amène à la guerre.
À l'actualité.
Ah, voilà. Et en fait, au Carl Schmitt d'après-guerre, en fait, où finalement il se dit, bon, maintenant, là où on en est arrivé, en fait, il est peut-être possible que finalement commence à se réaliser une forme d'unification politique globale, mais en sachant bien qu'il peut, pour lui, fondamentalement, il ne peut pas y avoir d'unification politique globale du genre humain, parce que qui dit politique dit dialectique, confrontation entre différents acteurs politiques. Donc en fait, il va forger d'autres termes, comme par exemple, il va parler d'une guerre civile mondiale. C'est-à-dire, plus on va vers l'intégration cosmopolitique, plus les conflits deviennent des sortes de guerres civiles, même entre puissances, mais à l'intérieur d'un grand ensemble. Donc il étudiait beaucoup ça dans la dernière partie de sa vie.
Et donc ça nous amène à la question suivante, c'est-à-dire quelle est l'actualité de Carl Schmitt ? Parce que c'est incandescent, Carl Schmitt, ça fait peur,
oui.
Notamment aux Occidentaux, parler de Carl Schmitt.
Ça fait peur aux Occidentaux et aux universitaires occidentaux encore plus. Voilà, mais en fait, c'est un peu ridicule parce que justement, on voit que... Donc récemment, je crois en 2019, à la faveur de la crise à Hong Kong, en fait, commençaient à émerger des articles qui s'alertaient du retour de Carl Schmitt en Chine. Et en fait, oui, il y a toute une école juridique universitaire en Chine qui étudie Carl Schmitt, qui étudie un de ses disciples qui est devenu par la suite une tête pensante du mouvement néoconservateur, Léo Strauss, voilà, qui est un juif, mais qui a été aidé par Carl Schmitt à avoir la bourse auprès de l'Institut Rockefeller, je crois bien, donc à la fin, avant-guerre ou après-guerre, je ne sais plus. Et donc, en fait, les Chinois étudient beaucoup ça, parce qu'en fait, les Chinois veulent comprendre, on pourrait dire, de la même manière qu'ils ont assimilé notre technologie, ils sont en train d'assimiler nos technologies politiques, et ils essayent de comprendre ce qui est intéressant chez nous. Et vous savez, les Chinois ont cette notion de baizuo maintenant, enfin d'un peu les libéraux gauchistes occidentaux, eux, ils ne sont pas là-dedans, ils n'ont pas de mal à se dire... Il y a un juriste chinois qui disait « Oui, Carl Schmitt a adhéré au parti nazi, bon, c'était son opinion à une époque, pourquoi pas ?» Enfin, eux, ils ne sont pas dans ces considérations-là, quoi. Enfin, et puis, ils ne se sentent pas touchés par ça, ils sont communistes.
Et en fait, pour eux, Carl Schmitt, c'est un moyen de théoriser ce qu'ils considéraient comme leur sphère d'influence.
C'est ça, et de légitimer, en fait, cette influence, et notamment... de répondre, par exemple, à Hong Kong, en utilisant les notions de Carl Schmitt, de dire, bon, c'est bien gentil ce que nous disent les Occidentaux sur la société civile, et tout, mais si ça devient un danger vitale pour l'État, ben, il faut préférer l'État, même pour le bien-être du collectif politique dans son ensemble, c'est-à-dire le peuple chinois. Après, ce sont des concepts politiques, on peut les utiliser un peu comme on veut. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne s'interdisent pas cela. Et tout de suite, évidemment, on a des universitaires américains, australiens, qui disent « Attention, ils reprennent Carl Schmitt. » Ben oui, reprenons-le aussi et redevenons schmittiens si on ne veut pas être écrasé par des puissances qui le resteront. Après, on pourrait dire aussi, je pense que Carl Schmitt aurait été fasciné par ce qui se passe autour du Covid, par exemple, dans cette idée de finalement... Le cosmopolitisme globaliste refuse la notion d'ennemi, mais finalement de la notion d'ennemi humain, donc il crée presque un ennemi hors humanité absolue, puisque déjà les dictateurs, les régimes illibéraux ou autoritaires sont déjà au dehors de l'humanité, ils sont susceptibles de commettre des crimes contre l'humanité et à ce moment-là d'être châtiés de manière radical et en fait vétérotestamentaire, hein, comme le dit Carl Schmitt, c'est un retour en fait à des conceptions où celui qui est hors de la loi, enfin on criminalise l'ennemi, on n'est plus dans le politique, l'ennemi devient un autre religieux presque, il faut s'en défaire. Ben, là on a une forme de nouvel ennemi qui peut frapper tout le monde à tout instant, qui est encore plus efficace que le terroriste, c'est une pandémie, c'est quelque chose comme ça. Donc je pense qu'il aurait eu beaucoup de choses à dire sur cette utilisation-là.
Est-ce qu'on étudie Carl Schmitt en France? Est-ce qu'il y a des gens encore qui travaillent?
Ah oui, il y a beaucoup. Je sais plus si c'est Alain de Benoît. Je crois qu'il y avait listé toutes les parutions qui ont lieu sur Carl Schmitt. Et chaque année, il y en a beaucoup. Il y a des universitaires. Il y a différents types. Souvent, les préfaces de certains ouvrages sont vraiment très intéressantes. Après avoir mis plusieurs couches de
précautions,
masques sanitaires et autres en ouvrant le livre, mais après ça, souvent la synthèse est intéressante. Il y a notamment un jeune universitaire qui s'appelle Storm, je crois, et lui il fait c'est très intéressant ce qu'il développe sur Carl Schmitt, notamment autour des questions religieuses, voilà.
Et est-ce que ça a de l'influence dans certains partis politiques français ou est-ce que le niveau est trop...
C'est ce que j'allais dire, je ne sais pas. peut-être, en fait, je sais que ça a une influence chez certaines personnalités plutôt du monde diplomatique et militaire. Ouais. Après, les partis politiques, comme les journalistes, je ne sais pas si c'est vraiment...
forcément le niveau.
Et je pense, peut-être pas de là, vu que ça va venir la solution à un problème. Voilà.
Si jamais, donc Carl Schmitt a beaucoup produit, si on veut s'intéresser, creuser un peu le sujet, qu'est-ce que vous nous recommandez comme livre?
Alors, il y a la première période, la notion de politique, qui est fondamentale. Après, il y aurait justement sur l'aspect plus géopolitique, cette idée de grand espace, il y a le Nomos de la Terre, autre livre. Il y a le traité sur Hobbes, qui est très intéressant. On voit comment Schmitt voit Hobbes. Après il y a aussi le livre qui est plus difficile à trouver maintenant, mais de notre ami Robert Stöckers sur Carl Schmitt, qui est très intéressant. Et il s'écrit beaucoup de choses sur Carl Schmitt. Voilà. Mais revenir à ses œuvres, c'est déjà très bien. Et souvent, comme je vous disais, les introductions des universitaires qui sont assez intéressantes.
Merci Pierre-Antoine, ce sera le mot de la fin. Donc on ne peut qu'encourager nos lecteurs à approfondir Carl Schmitt, d'autant plus que si ce qui est en train de devenir, voire est déjà devenu la première puissance mondiale, c'est-à-dire la Chine s'y intéresse, il est évident qu'on ne peut pas se passer de cette lecture.
D'ailleurs, c'est un peu, on pourrait dire, dans notre site Think Tank Strategica, nous sommes un peu tous schmittiens et nous publierons prochainement des synthèses sur Carl Schmitt et sur son travail.
On mettra le lien de Strategica en description de cette vidéo. Et on en parlera dans une autre
vidéo.
Voilà, j'espère que cet entretien vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, à faire un don. Les coordonnées de nos comptes PayPal, Tipeee et Patreon sont en description de la vidéo.
C'est du grand art.
C'était pas mal.
Ouais.
Tiens, attends-le voir. Je sais pas s'il y a encore de...